Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Panique 105.4 FM et vous écoutez l'émission de Vie Féminine à Bruxelles, elles en parlent encore. Je m'appelle Virginie Nyonzima et j'animerai l'émission d'aujourd'hui. Dans nos émissions précédentes, nous avons parlé de l'habitat, du logement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation inhabituelle des femmes sans abri que plusieurs d'entre nous ignorent encore. Pourtant, le nombre de femmes sans abri représente 30% de la population sans abri. Nous allons découvrir ce que c'est une personne sans abri et le sans-abrisme au féminin. Essayer de comprendre comment les sans-abri occupent différemment les lieux publics ou aménagés selon que l'on est femme ou homme. Les raisons qui poussent les femmes à devenir sans-abri. Le type des femmes touchées par le sans-abrisme. Les difficultés que les femmes rencontrent dans leur errance et pour accéder aux centres d'accueil. Les conséquences du sans-abrisme sur leur santé, leur vie en famille, leur image, leur intégration dans la société. Dans cette émission, nous sommes avec 4 invités dont je vais les laisser se présenter. Il y en a 3, donc je vous donne la parole.
Bah voilà. Moi, c'est Rim Idmiloud. Je suis assistante sociale à l'ASBL chez nous. Et donc, j'avais fait un mémoire sur le sans-abrisme au féminin. Et aussi, on avait essayé ou tenté de créer un centre d'accueil de jour pour femmes sans-abri chez elles. Donc, voilà. Estelle.
Bonjour, je m'appelle Estelle Fontaine. Je suis étudiante en psychologie sociale et interculturelle à l'ULB. Et je fais mon stage. J'ai fait mon stage avec Rim cette année. Et donc, j'ai participé aussi à l'élaboration de ce centre d'accueil pour femmes.
Moi, je m'appelle Fabienne De Gris et je suis d'abord une amie. Et puis aussi, j'ai participé au début du chez elle. Voilà. Parce que je suis, à cette époque-là, j'étais sans abri.
D'accord, merci beaucoup. Pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous, en tant qu'invité, essayez de nous donner votre opinion de ce que vous entendez d'une personne sans abri et comment la définiriez-vous. Rime.
Oui. Donc pour être brève, il faut faire la différence entre sans abri et sans domicile fixe. Donc un SDF, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment littéralement à la rue, mais qui n'a pas un logement propre à lui, ou sinon des logements insalubres ou inappropriés. Et donc qui se maintient un petit peu chez la famille, chez les amis, ou avoir un logement de temps en temps pour quelques mois. Et donc cette différence, elle est très importante parce que une personne sans domicile fixe, c'est une personne qui peut encore avoir ses droits. Si elle arrive à avoir une adresse de référence ou si elle arrive à mettre quand même son adresse dans une maison d'accueil, alors qu'une personne sans abri, c'est une personne qui se retrouve littéralement à la rue, en fait. Et donc, entre la rue, l'hôpital, des fois même la prison et les institutions, les institutions d'urgence de nuit.
Estelle, est-ce que tu as autre chose à ajouter?
Pas exactement. La définition de Rim, elle résume bien les faits. Mm-hmm. Mais il faut se dire qu'on peut rencontrer toutes sortes de femmes. C'est un, allez, C'est une expérience qui peut arriver à n'importe quel moment de la vie et selon les obstacles qu'on rencontre. Et donc, il ne faut jamais se dire, ne jamais stigmatiser ces personnes, car on ne sait pas ce qui a pu leur arriver et on peut se dire que ça peut arriver à n'importe qui, en fait.
D'accord, merci beaucoup. Selon les témoignages que nous avons déjà eus dans nos émissions, les femmes et les hommes occupent différemment des lieux publics. Apparemment, c'est le cas chez les sans-abri. Est-ce le cas?
Oui, c'est clair. Les lieux, ils sont pas occupés de la même manière. Donc, d'ailleurs, en fait, la rue, elle est dominée par les hommes, que ça soit quantitativement ou psychologiquement. Donc, il y a une dominance assez importante des hommes. Donc, les femmes, elles n'ont pas vraiment leur place. On remarque en fait que les hommes, ils ont des territoires donc qu'ils occupent et on les trouve. Enfin, on peut les repérer, on peut savoir où on peut trouver cet homme. Et l'autre, il est là. Mais par contre, les hommes, non, les femmes, elles sont très mobiles. Et donc, justement, elles s'approprient pas la rue. Donc, elles errent toute la journée dans la rue. Elles bougent tout le temps. Elles ne veulent pas être repérées. Et en même temps, je crois que c'est une manière aussi de se protéger. Enfin, je pense que ça doit être une manière de se protéger. Je ne sais pas si Fabienne...
Je n'ai pas vécu vraiment dans la rue, parce que d'après ta définition, j'étais plus SDF que sans-abri. Mais c'est vrai, parce que j'en connais, je les vois que quand je les croise, elles sont tout le temps en train de marcher, tout le temps,
oui.
Même la nuit.
Oui, voilà.
Mm-hmm. Oui. Et toi, Estelle, d'après ton expérience, qu'est-ce que tu en dis?
Bien, dans le centre qu'on a tenté d'ouvrir, on a rencontré certaines femmes. Mmh. Et les quelques que nous avons rencontrées, en effet, erraient la journée. Et donc, on leur permettait de venir se poser, enfin de venir faire une pause durant leur errance. Mais en effet, c'est vrai qu'on les rencontre aux aléas dans la rue, quoi.
Apparemment aussi, il y a des groupes qui se forment, donc avec des complices, des femmes qui essaient de joindre des groupes des hommes. Comment ça se passe?
Oui, ça aussi, c'est une manière de se protéger, en fait. C'est d'appartenir à un groupe, c'est d'être en couple. Donc, en général, c'est très violent, le monde de la rue. Et la femme est la première victime de la violence et de la violence masculine. Mm-hmm. Et pourtant, elle recherche cette... Je ne dis pas qu'elle recherche cette violence, mais elle recherche cette compagnie. Mais je crois que c'est une manière de se protéger. Donc, on ne trouve jamais un groupe de femmes entre elles. Je n'ai jamais rencontré un groupe de femmes sans abri entre elles.
Et qui arrive? Qu'est-ce qui fait que... Justement, il y a pas les femmes n'arrivent pas à se mettre ensemble, mais qu'on voit les hommes qui se mettent ensemble.
Mais ça, je ne sais pas. Ça reste encore mon interprétation. Mais je crois que parce qu'il y a eu plusieurs témoignages de femmes qui me disaient, je n'ai pas envie de venir parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec d'autres femmes sans abri. Mais moi, je pense que c'est ça la renvoie à sa propre image qu'elle n'accepte pas. Je pense donc retrouver une autre femme dans la même situation, ça renvoie à sa propre image qui n'est pas encore digérée peut-être, et donc elle fuit. En général, elle fuit les femmes plus qu'elle fuit les hommes. Et il y a beaucoup de violence entre les femmes aussi, en fait, entre elles. Mais bon, il n'y a pas plus de violence qu'avec les hommes et les femmes. Et pourtant, elle fuit les femmes. Donc, ça doit être vraiment un problème d'image. Mais je ne suis pas sûre, en fait. Ça reste une interprétation personnelle.
Mmh, donc, elle essaie de se retrouver ailleurs. Donc, est-ce que d'autres occupations comme les squats, les gares, tu peux nous dire, parce que je pense que vraiment les femmes restent toujours invisibles dans les rues.
Ah oui, elles restent invisibles, justement, c'est ce qu'elle vient de dire, Fabienne, et ce que j'ai dit tout à l'heure.
Mais elles sont là, elles sont sans abri.
Elle est en perpétuel mouvement parce qu'elle ne doit pas être repérée. Donc, c'est très, très difficile d'approcher une femme sans abri alors qu'un homme, on peut le trouver facilement parce qu'elle change d'endroit, elle change tout le temps, elle bouge tout le temps. Et c'est vrai que dans les squats, donc, en général, là aussi, en fait, elle est victime de viols, de violences. Donc, sa vie, c'est toute la journée, elle essaye de passer inaperçue. Puis la nuit tombe, elle essaie de trouver un endroit où dormir. Donc si c'est pas l'asile de nuit, c'est un squat. Et un squat, c'est clair qu'en général, il vaut mieux être en couple, être avec quelqu'un.
Parce que c'est mixte.
Parce que c'est bien sûr. Enfin, je veux dire, là, c'est le premier qui arrive, qui s'approprie les lieux. Et j'ai déjà eu des témoignages de filles qui disent, moi, elles trouvent n'importe lequel. Elles disent, je préfère encore cette nuit qu'il y en a qu'une personne qui abuse de moi que plusieurs, donc, et que, en quelque sorte, elle vance encore pour se protéger des autres.
Donc, il reste quand même ce pouvoir, de, ce rapport de pouvoir, donc, de domination de masculine sur les lieux publics, que ce soit dans les gares, que ce soit
dans les squats, ou dans la rue.
Et dans les maisons d'accueil, donc
Les maisons d'accueil, non. Enfin, les maisons d'accueil, la plupart des maisons d'accueil sont séparées, en fait.
On va y revenir par après. Maintenant, on va avoir une pause musicale. C'est... Nous revenons sur notre émission « Elles en parlent encore » à Radio Panique 105.4 FM. Après avoir écouté la différenciation d'occupation des lieux entre les femmes et les hommes, nous allons voir un peu plus loin la catégorie des femmes qui se trouvent dans la rue et leur quotidien. Mais Estelle, je pense bien que vous avez envie de donner encore des éclaircissements sur justement l'image qu'on donne à la femme, donc selon dans notre société, dans notre culture, la représentation sociale envoie toujours envoie la femme et l'homme dans des rôles sexués et à savoir être mère et avoir son foyer, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Alors comment est-ce que les femmes peuvent concilier leur rôle d'être mère et en même temps vivre dans la rue, le sans-abri?
Justement, elle ne concilie pas. En fait, comme vous l'avez bien dit, donc, on est encore dans des représentations donc, sociales qui, chacun sa place. Donc, on peut encore imaginer un homme vagabond ou un sans-abri. Enfin, quand on parle de sans-abrisme, ça nous renvoie directement à l'homme. Alors que la femme, non, elle est censée tenir un foyer, elle est censée avoir une famille, avoir des enfants et s'en occuper. Et donc, on est toujours dans ces stéréotypes. Et justement, une femme qui atterrit à la rue, c'est une femme pour la société qui a failli à son devoir ou à son rôle naturel. Donc, c'est une femme qui ne remplit pas ce rôle, qui a des enfants placés.
Qui a raté quelque part.
Qui a tout raté. Donc, qui a ses enfants placés, qui n'a pas un foyer. Et elle est d'autant, enfin, elle est beaucoup plus victime de l'agressivité du sans-abrisme, mais d'un point de vue psychologique que l'homme.
Mais alors comment est-ce que, oui justement, oui, j'ai compris que c'est pas facile de concilier en temps d'être une mère en même temps, de jouer ce rôle d'être une mère et en même temps de vivre dans la rue, ce qui est très dur pour une femme. Fabienne, est-ce que toi tu as, comme tu as vécu cette situation, comment est-ce que toi tu vois être mère, avoir un enfant et puis alors aussi...
Vivre dans la rue avec un enfant, c'est impossible. Mm-hmm. S'il est petit, il faut l'emmener à l'école, il y a plein de choses à faire. On ne peut pas errer toute la journée avec un enfant, c'est impossible. Mm. Et même un plus grand, je pense que c'est impossible. Et moi, le mien, il est grand, donc et je n'ai pas erré dans les rues, et donc il n'a pas erré non plus comme ça. C'est pas une vie possible.
Mm-hmm. Et toi, Estelle? Qu'est-ce que tu penses? Donc, pour une femme, lui demander d'être en même temps une mère et en même temps qu'elle vit dans la rue, comment toi tu vois ça? Parce que c'est ce que la société demande à une femme, d'abord, de jouer son rôle d'être mère. Et donc, elle est censée aussi d'avoir un foyer. Mais là, c'est une femme qui est dans la rue.
Mais comme dit Fabienne, c'est quasiment impossible. Et en général, les femmes qui se retrouvent dans la rue se font en général enlever leur enfant, sûrement. Ils les placent.
Ils sont placés.
Et donc, c'est encore un peu plus pénible de se dire, à cause de ma situation, je ne peux pas vivre avec mon enfant, déjà. Et aussi de ne pas participer entièrement à son éducation, de ne pas pouvoir le suivre, c'est assez difficile. Mais... je pense que toutes les mères, qu'elles soient à la rue ou dans une bonne situation, espèrent que leurs enfants se portent mieux qu'elles. Donc, elle fera le mieux pour lui, ça c'est sûr.
Mmh, mmh. Là, nous allons passer à voir les raisons qui poussent les femmes justement à se retrouver dans la rue, à devenir des sans-abri. Quels sont les éléments qui déterminent justement cette errance?
Oui, donc là, il faut bien distinguer entre des raisons, des causes structurelles et des causes individuelles. Donc, je m'explique. Donc, dans les causes structurelles, donc, c'est des causes qui sont indépendantes du parcours de la personne ou de la femme. On pourrait citer la crise du logement, on pourrait citer la pénurie des logements sociaux. À Bruxelles, en fait, la liste d'attente, elle est de en moyenne 5-6 ans, en fait, des personnes attendent. Donc, il y a un flagrant manque de logements sociaux. Le secteur privé, les loyers sont très, très chers et les conditions d'accès sont aussi des fois inaccessibles, en fait. Donc, on a des propriétaires qui demandent des fiches de salaire, qui excluent les personnes qui sont au CPS ou au chômage, qui excluent même les étrangers des fois. Et donc il y a un problème assez important dans le secteur privé qui n'est pas du tout réglementé. Donc il y a aucune loi qui réglemente les loyers privés. Et puis il y a la difficulté d'accès à la propriété privée quand on a un revenu pas très très élevé. Donc il y a des prêts sociaux notamment, mais qui ne couvrent pas tout, qui ne couvrent pas par exemple les frais de notaire. Et donc là, voilà, donc on accède difficilement à la propriété privée. Et on a aussi un contexte très important qui est l'activation, pour le moment, l'état social actif. Donc de l'état social, on est passé à l'état social actif. Donc là, c'est des raisons politiques aussi. Et là aussi, c'est des raisons structurelles qui sont indépendantes de la personne. Donc c'est pas la personne qui veut être à la rue ou la personne qui a des problèmes enfin individuels. Mais là, c'est indépendant. On a un problème très très important que j'aimerais bien insister dessus, c'est le conditionnement en fait de l'aide sociale. Donc l'aide elle est conditionnée par l'adresse. Donc si une personne perd momentanément son adresse, elle perd ses droits. Et quand elle perd ses droits, ben, elle n'a plus. Donc là, on est dans un cercle vicieux et elle n'a plus les possibilités d'accéder à un logement. Et donc là, c'est un problème aussi, je te trouve, structurel. On a le taux cohabitant dans les problèmes structurels aussi. Donc l'aide, elle n'est pas individualisée. Donc les loyers sont chers et la solution serait, par exemple, la cohabitation ou la colocation. Mais ce n'est pas possible puisque la personne, elle perd une partie de ses droits, ses allocations sociales. Donc voilà, les conditions de domicile, la chasse aux chômeurs. À côté de ça, la crise économique aussi, c'est quand même une cause structurelle. Mmh. Et les femmes sont plus victimes de cette crise économique que les hommes parce que à la base, c'est plus les femmes qui font du travail partiel. Les salaires des femmes, malheureusement, en Belgique aussi, sont moins élevés que ceux des hommes. Donc elles sont les premières à être touchées par la crise économique. L'espérance de vie des femmes sont plus longues que les hommes. Donc plus elle vit, plus elle est victime de la crise économique. Donc la pension, elle n'est pas, enfin malheureusement, donc les femmes plus âgées sont plus pauvres que les hommes. Et à côté de ça, il y a des raisons individuelles. Et dans les raisons individuelles, c'est le parcours propre à chaque femme. Et donc là, on trouve, on repère en général, il y a une très très grande partie de femmes où il y a une rupture familiale très très tôt, donc vers 14-15 ans, où il y a la famille qui éclate, il y a un alcoolisme familial, il y a une violence familiale, et donc il y a des fugues. Voilà, ça c'est la première raison. Puis il y a l'autre raison, c'est la toxicomanie et l'alcoolisme. Et donc là, ça pourrait être une raison comme ça pourrait être une conséquence. Donc là, c'est très complexe, on ne peut pas vraiment faire la différence. Une femme pourrait se retrouver à la rue justement suite à une période d'alcoolisme, comme elle pourrait devenir alcoolique une fois qu'elle est à la rue. Donc là, on ne peut vraiment pas différencier entre la raison et la cause. Mmh. Et puis, il y a une grosse, grosse partie de femmes sans abri, et surtout ceux qui sont littéralement à la rue, qui ont un problème de santé mentale. Donc en gros, c'est ça. Deux grosses catégories, en fait. Mmh. Et sinon, bien sûr, on pourrait encore faire une petite typologie de femmes donc qui se retrouvent sans domicile fixe. Et là, on trouve les sans-papiers. Et là aussi, c'est une raison structurelle. Donc, pas de papier, donc pas de droit. Et pas de droit, pas de logement, pas de revenus. Et on trouve aussi des femmes qui
sont victimes de violences
conjugales. Et ça, il y a aussi beaucoup d'étrangères en fait qui viennent les maisons d'accueil. D'ailleurs, elles sont peuplées de ce type de femmes, donc qui se marient avec un homme qu'elles connaissent pas. Donc elles viennent du pays d'origine pour rejoindre un mari ici et qui s'avère être très violent. Et donc au bout de quelques temps, elle le quitte et elle se retrouve à la rue. Et ces femmes, en général, on les trouve vraiment dans les maisons d'accueil, en fait. Il y a des structures adaptées pour les prendre en charge. Et puis, il y a un autre type de femmes, moi je les appelle un petit peu les habituées, ou les femmes réinsérées dans le secteur associatif, en quelque sorte. Donc, depuis des années, elles ne sont jamais à la rue, mais elles passent d'une maison d'accueil à une autre. Elles ont leur place, en fait, dans le secteur. Donc, elles connaissent toutes les associations, elles connaissent tous les acteurs sociaux, et c'est une forme de réinsertion. Donc, c'est leur vie, c'est leur quotidien. Et voilà. Donc, et puis, il y a des jeunes, il y a de tout, en fait. Mm-hmm. On trouve des jeunes de 15 ans, comme on trouve des... Et ça, c'est nouveau. Donc, avant, il y avait beaucoup moins, mais des femmes beaucoup plus âgées, en fait, de plus de 60 ans. Ça, c'est un phénomène assez nouveau. Mm-hmm.
Et Fabiana, vous avez quelque chose à ajouter sur les raisons donc, qui poussent les femmes à être dans la rue?
Non, et c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Voilà, c'était le prix du loyer devenait tellement cher qu'il y a des mois où bah, on paye une fois le loyer, une fois les charges, et puis une fois autre chose, et puis finalement on s'endette. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à ce que le propriétaire vous mette dehors, parce qu'il y a plus moyen, il y a plus moyen de négocier, parce qu'avec un tout petit revenu, il n'y a pas moyen de mettre de l'argent de côté pour pouvoir, ou de payer plus que le loyer. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec plus rien.
Merci. Donc, quelles sont les difficultés que les femmes qui vivent dans la rue rencontrent souvent? Parce que là, il y a aussi tout type de femmes, il y a des jeunes, il y a des personnes aussi qui sont, donc, qui sont là aussi, d'autres types de femmes. Quelles sont les différentes difficultés que les femmes rencontrent?
La première, moi, je dirais, c'est l'insécurité. C'est la, allez, la plus flagrante, quoi. Et ensuite, bah, c'est tout ce que les sans-abri en général peuvent rencontrer. Mais les femmes sont à la base, on va dire, plus fragiles et plus à la merci de la volonté de n'importe qui. Hein.
Mmh. Oui, on pourrait en fait parler des besoins. Il y a l'insécurité, c'est très très important, et c'est clair que les femmes sont beaucoup plus victimes de cet aspect que les hommes. Puis il y a l'hygiène aussi, en fait. À Bruxelles, il n'existe pas de centre, enfin de douche exclusivement féminine. Donc toutes les douches, enfin il n'y en a qu'une d'ailleurs qui est gratuite.
Mais ça c'est dans la rue. Moi, je parle de, dans la rue, des femmes qui se trouvent dans la rue.
Bah, qui se trouvent dans la rue, donc elle a besoin quand même de se laver, elle a besoin d'aller aux toilettes. Donc, il n'y a pas de toilettes. Donc, ça paraît pas important, mais quand on vit dans la rue, il suffit de passer une journée dans la rue et voir combien de fois on va aller aux toilettes et payer 30 cents. Mais si c'est une vie, ça devient problématique, en fait, de pouvoir trouver des toilettes pour aller. Déjà, la plupart du temps, ou toi, Fabienne, ou moi, un café, il va nous recevoir sans problème. Enfin, on dit, oui, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais pas une femme qui a l'air d'être sans abri. Là, elle ne peut pas y aller. Donc, elle est obligée d'aller à la gare. À la gare, c'est payant. Donc là, c'est un problème assez important. En fait, les toilettes, la douche aussi. Donc, il y a une seule douche gratuite, la Fontaine à Bruxelles, mais elle est mixte. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent aller au McDo, au Quick, se laver sommairement au lieu d'aller fréquenter un endroit mixte. Donc, et puis, il y a un autre problème, c'est les consignes. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais elles se trimballent en général avec plein de sacs. Elles perdent leurs papiers. Enfin, ça aussi, c'est un problème. Et là, parce qu'elles n'ont pas où mettre leurs affaires.
Mmh. Et d'autres difficultés que les femmes rencontrent?
Oui, parce que là aussi, elles sont aussi victimes du vol, parce que souvent, on leur vole leurs papiers, plutôt. Mmh. Que ce soit entre elles ou avec, enfin, ou d'autres sans-abri, il y a beaucoup de vols. Beaucoup de problèmes de ce genre-là.
Et pour les jeunes filles aussi, apparemment, elles ont, il y a aussi d'autres difficultés, d'autres problèmes, tentatives d'enlèvement pour prostitution. Je ne sais pas si c'est le cas. Rim, donc.
Oui, donc
aussi non, on parlait des viols, on parle d'autres agressions, viols. La drogue, ça se trouve aussi apparemment chez les sans-abri. Donc, je ne sais pas si...
ça marque le quotidien des sans-abri, oui. C'est quand même un aspect très important dans la vie des sans-abri, les viols, les agressions et les vols. La prostitution, oui, on pourrait l'appeler comme ça, mais c'est de la prostitution de survie, en quelque sorte, en fait. Donc, voilà, donc bien sûr, il y a beaucoup de viols, donc... Je n'ai pas encore rencontré une seule femme qui a vraiment vécu à la rue qui ne m'ait pas dit qu'elle a été violée. Donc, c'est... La proportion du viol dans la rue, elle est assez importante. C'est pas des accidents ou c'est pas un sentiment d'insécurité, non, c'est réel. Et bien sûr, il y a de l'abus. Donc ce qu'il y a, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme, il est dominant. Donc en général, où il l'a fait prostituer, donc c'est un homme, par exemple, pour la protéger ou pour lui fournir sa drogue ou pour, enfin, il y a c'est complexe, il y a de tout en fait. Donc, elle est obligée de se prostituer, ou des fois, elle se prostitue pour avoir, moi, j'ai déjà entendu, je suis obligée de vendre mon corps pour avoir un endroit chaud où dormir, ou pour éviter que d'autres me violent, donc,
Se chercher un petit copain.
Un petit copain qui va la protéger, mais en même temps, ce petit copain aussi, il la viole aussi. Donc, c'est des réalités, en fait, assez fréquentes. Mmh. Plus les filles, bien sûr, les jeunes filles, mais ça c'est clair que là c'est un autre sujet, c'est la traite des humains, et donc les jeunes filles qui peuvent tomber entre les mains de mafieux, ou entre les mains de quelque peu scrupuleux en fait, et qui peuvent se retrouver en général donc dans des réseaux malgré elles, et c'est avec un lien étroit avec la toxicomanie en général.
Et quelles sont les conséquences sur leur vie, sur la vie de ces femmes? Au niveau de la santé, intégration dans la société
Intégration, on est loin en fait de l'intégration. Là, on est dans la survie. Donc, les conséquences les plus apparentes, on parle de grossesse, par exemple. Les femmes à la rue, elles ont des grossesses multiples et assez régulières. Et puis, les conséquences psychologiques, donc... Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Enfin, c'est assez long, je ne sais pas si...
Une faible estime d'elle-même. Enfin, allez, on ne peut plus t'apprêter. Tu subis plein d'agressions. Tu dois faire la manche ou trouver un moyen pour survivre. On est détruit de l'intérieur, je pense.
Mmh. Oui, mais estime de soi, c'est important.
C'est ce qui donne le courage pour avancer. Hein.
Oui, et donc il y a aussi cette image là, j'imagine aussi que c'est pas vous venez de le dire, être une femme sans abri dans une société où on est censé avoir une image, donc une femme idéale, ce n'est pas du tout facile. Je ne sais pas si Fabiana, tu veux ajouter encore d'autres choses sur être une femme dans la rue, être sans abri, les conséquences sur la vie de ces femmes. Comment le direz-vous?
C'est clair que psychologiquement, c'est très dur. Mm-hmm. Et physiquement aussi. Mais je pense que le psychologique, c'est ce qu'il y a de plus...
On va y revenir après la pause musicale. Donc, le service technique est occupé à nous mettre de la musique, même si tout à l'heure, il y avait un petit problème technique. Je pense que maintenant, c'est réglé. Merci bien.
Le loto national n'enrichit que les voisins, sinon c'est Germinal dans le métro parisien. Il y a des drogués pleins de poils qui taxent du fric tout le temps. C'est écrit dans le journal, je le sais, je dors dedans. Je paye un loyer de 10 balles dans une consigne de gare. Je me douche municipal avec des types bizarres. J'ai même chopé la gale, ça se fait plus depuis longtemps. C'est écrit dans le journal, je le sais, je dors dedans. Je dors à la belle étoile, entre étoiles et nations, dans un train qui dévoile Paris, ses constellations. Les lunes de Buzinval, le chien Ménilmontant, la grande ours de Pigalle, je la connais, je dors dedans. Des safranes bleu métal promènent des présidents et les princesses de Galles qui, paraît-il, chient tout le temps. L'Europe des crèves la dalle se fait lentement, mais sûrement, dans le trou de Châtelet-Léal. Et je le sais, je dors dedans. Ta-ta-tan.
Vous êtes toujours sur Radio Panique à l'émission. Elles en parlent encore de vie féminine. Après, analyse des conséquences. Nous allons maintenant voir comment les femmes s'en sortent. Que ce soit dans les centres d'accueil, que ce soit dans d'autres lieux. Donc, je donne la parole aussi à Rim.
Oui. Et donc, pour juste faire un petit résumé en fait, des conséquences justement sur la vie que vous avez évoquée juste avant la petite pause. Et donc là, c'est clair qu'il y a une déformation, j'aime pas le mot, c'est péjoratif, mais bon, enfin, je veux dire, on pourrait parler de déformation, donc du rapport au temps, du rapport à l'espace, du rapport à son corps, et bien sûr le rapport à l'autre. Donc c'est clair qu'il y a là une différence entre une femme qui vit à la rue et une femme qui vit dans un foyer. Donc tout ça change en fait. Et donc comment elles s'en sortent ? Comment elles s'en sortent ? Bah c'est le système de survie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le quotidien d'une femme à la rue, donc c'est l'errance, en général elle dorme pas, enfin si elle cherche quoi manger, où se laver, où dormir et où être en sécurité. Donc ça se résume à ça. Donc le matin, c'est la mobilité, marcher perpétuellement pour ne pas être repérée. Donc là, c'est un petit peu être camouflée, donc comment elle s'habille aussi. Donc une femme à la rue, elle essaye de se camoufler le maximum possible. Des fois, elle se lave pas non plus, justement pour ne pas attirer des hommes. Donc ça, c'est des petites techniques de survie qu'elle met en place pour éloigner les agressions et les viols. Chercher un endroit où se laver ou chercher à aller aux toilettes, chercher où manger et trouver où dormir. Et donc trouver où dormir, c'est les asiles de nuit, c'est les hôtels, c'est les squats, ou passer toute la nuit à marcher et puis dormir la journée. Parce que dormir la nuit, c'est très dangereux. Faire la manche aussi, donc pour subvenir à ses besoins. Des fois, ses besoins, les besoins élémentaires ou des fois comme il y a des dépendances, donc là aussi c'est pour subvenir à des besoins de drogue ou alcool. Et donc voilà, et il y a aussi il y a des femmes aussi, il y a un parcours un petit peu institutionnel, donc comme il n'y a pas de prise en charge à long terme et il n'y a pas de suivi en fait après par exemple une cure ou un truc comme ça, donc il y a une espèce de cercle vicieux. On se retrouve de la maison d'accueil, on se retrouve par exemple après à l'hôpital, enfin en psychiatrie ou pour une cure, puis après encore une maison d'accueil, puis encore la rue, puis enfin et voilà, et c'est un parcours cyclique en quelque sorte.
Mmh. Et donc, justement, vous parlez des centres d'accueil. Là, vous parlez que c'est l'errance dans la rue, vous parlez des hôtels. Oui. Mais comment est-ce que les femmes peuvent subvenir à leurs besoins? Alors, je veux dire, par exemple, les hôtels, alors qu'elles n'ont même pas de moyens.
De revenus.
Oui, si de revenus.
Il y a en fait si elles arrivent à avoir une adresse de référence, donc au CPS, elles peuvent toucher le CPS quand elles ne sont pas sans papier. Je parle d'une personne en séjour légal en Belgique ou une personne belge. Donc il y a un revenu qui est prévu. Le seul problème, c'est que encore une fois, en fait, on est dans un. Les horaires sont inadaptés. Donc c'est des services qui sont faits pour des personnes qui ont une vie normale. Donc il faut une aide conditionnée. Il faut aller chercher des papiers. Il faut se lever le matin. Et donc il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent justement coupées de tout et sans revenus parce qu'elles ne peuvent pas répondre à ces conditions.
Justement, vous avez parlé que ces centres-là sont destinés à des personnes normales. Et apparemment aussi
entre guillemets.
Oui. Et apparemment aussi parmi ces femmes-là aussi, il me semble qu'il y a une type des personnes qui ont des problèmes au niveau de la santé.
Santé physique?
Non,
ou santé mentale.
Oui, donc oui. Vous n'avez pas.
Oui, donc justement, j'avais dit que
au début.
La grosse majorité ont un problème de santé mentale. Et là aussi, c'est pour des raisons historiques, en fait. Donc, il y a eu le grand enfermement, puis après, il y a eu le mouvement antipsychiatrique, et on a fermé les asiles psychiatriques. Et donc là, il y a tout un tas de personnes qui se sont retrouvées à la rue. Donc, ces femmes-là ne sont pas assez dangereuses pour elles ou pour autrui, pour qu'elles soient à l'hôpital psychiatrique. Et comme il n'y a pas de place, donc voilà, elles se retrouvent à la rue. Et donc, elles ne sont pas assez non plus normales, entre guillemets, pour se réinsérer dans la société. Donc, elles se retrouvent dans la rue.
Et alors, on peut dire que ces centres d'accueil, donc, comme ce sont les centres d'accueil normalement d'urgence. Parce que les personnes, là, ne restent pas longtemps.
Dans les centres d'accueil?
Oui, dans les centres d'accueil. Donc, la politique de ces centres d'accueil, normalement, c'est pour pouvoir que les gens passent. C'est un lieu de passage. Ce n'est pas vraiment un endroit où les personnes restent longtemps.
Oui, mais on peut faire deux distinctions. Donc, il y a les centres d'urgence. Et là, à Bruxelles, il n'y en a que deux. Donc, il y a le CASU, SAMU Social et Pierre d'Angle. Et donc, là, c'est que la nuit. Et donc, la personne, c'est tous les jours, elle ne sait pas si elle va dormir là. Donc, tous les jours, téléphoner de 18h à je ne sais pas quelle heure, 23h. Voilà, donc, jusqu'à ce qu'elle trouve une place, et c'est pas sûr. Ça, c'est le centre d'urgence. Et bon, il y a des centres de crise aussi qui font 3-4 jours. Donc, il y a deux peut-être à Bruxelles ou trois. Et puis, il y a les maisons d'accueil. Les maisons d'accueil, c'est un peu plus que ça. Donc, c'est en moyenne 6 mois. Et donc, c'est fait normalement pour que la personne ait un peu le temps de récupérer ses droits, parce qu'elle a le droit d'avoir une adresse là. Donc, du coup, elle peut avoir une allocation sociale. Donc, récupérer ses droits, mettre un petit peu de côté, se remettre sur pied, faire une cure s'il y a moyen de faire une cure, et de se réinsérer. Mais le problème, c'est que ces maisons d'accueil, les conditions d'accès sont un peu trop élevées pour les femmes qui sont vraiment, vraiment à la rue, qui ont de graves problèmes, en fait, des problèmes chroniques, en quelque sorte. D'abord, il y a les conditions, la condition, donc de papier, déjà. Donc, il faut être en règle en Belgique. Il y a la condition de projet. Donc, la personne doit avoir un projet. Et donc, et quand on parle de survie et on parle de personnes qui errent toute la journée dans la rue, c'est illusoire de lui demander d'avoir un projet.
C'est pas cohérent.
C'est pas cohérent du tout. Le délai aussi, il est trop. En 6 mois, une femme qui a connu la rue et qui a besoin d'un endroit pour se reposer, c'est pas en 6 mois qu'elle va se reposer ou elle va réapprendre à s'approprier un lieu ou réapprendre à habiter son corps d'abord avant d'habiter l'endroit. Donc c'est un travail à long terme, et 6 mois, c'est pas du tout suffisant. Le coût, il est cher aussi. Donc, il y a beaucoup de femmes aussi qui refusent d'y aller parce qu'en fait, ça coûte les 2/3 de la location. Et il y a même des maisons d'accueil qui gèrent aussi le tiers qui reste. C'est-à-dire que la femme, elle est infantilisée, elle est considérée comme une incapable, et on prend tout son argent et on gère. Et même quand on lui donne, elle doit justifier dans quoi elle a dépensé. Donc la politique des maisons, de la plupart des maisons d'accueil en tout cas, ne sont pas du tout adaptées aux femmes à la rue. Donc il y a une espèce de monopole comme ça. Enfin, il y a un aspect éducatif assez important, et on revient encore à l'image de la femme. Donc elle doit apprendre à gérer son foyer, elle doit apprendre à élever ses enfants, et donc on trouve cet aspect assez, assez présent dans beaucoup, beaucoup de maisons d'accueil.
Donc il y a de d'après ce que vous venez d'expliquer, c'est vraiment il y a de l'ambivalence totale, et donc les femmes, certaines femmes n'arrivent pas à comprendre justement ce système, et même elles sont demandées à payer, et puis alors qu'elles n'ont pas des moyens, ou bien les conditions non plus ne sont pas du tout ne sont pas cohérentes par rapport à la réalité, aux besoins des femmes. Donc finalement, la politique de ces centres-là, donc, elles mettent donc à. Elle provoque encore un autre système, donc elle permet encore que les femmes restent dans la précarité, et puis alors les femmes encore restent dans cette errance interminable.
Je dirais pas ça, en fait. Je dirais que les maisons d'accueil sont adaptées à un profil de femmes, et donc on se retrouve avec beaucoup beaucoup de femmes qui ne rentrent pas dans ces critères, et il n'y a rien pour les prendre en charge. Je ne dirais pas que les maisons d'accueil qui existent ne remplissent pas le rôle, mais si, en fait, parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de ce type de prise en charge.
Elle les renvoie encore dans la rue. Donc, dire, bon, voilà, elle les accueille pour une nuit, et puis alors, le lendemain, il y a même des femmes qui...
Ça, c'est d'urgence,
oui. Oui, il y a même des femmes qui fouillent ces centres, qui ne veulent plus, parce que, les conditions, donc l'accueil, les exigences, et même, les situations même d'accueil, pour certaines femmes, c'est invivable. Donc, elles sortent de la rue, et puis aussi, par exemple, des centres qui sont mixtes, et elles vivent aussi des violences encore. Elles fuient aussi dans la rue. Mais alors, donc, il y a une... Vraiment, c'est incohérent par rapport à...
Moi, je dirais pas que c'est incohérent, en fait. Je dirais qu'on a oublié un type de femmes sans-abri et où il n'y a pas de structure qui pourrait les prendre en charge. Ça veut dire que les maisons d'accueil qui existent, elles ciblent un profil bien précis. Et donc, qui rentre dans ces critères. Il y a des femmes qui ont besoin que de 6 mois. Donc, des femmes qui traversent une crise, des femmes, enfin, voilà, il y a un profil. Et d'ailleurs, elles sont pleines, les maisons d'accueil. Il n'y a pas de place. Et elles remplissent elles remplissent un petit peu leur rôle avec ces femmes-là. Maintenant, il y a des femmes qui ne rentrent dans aucun critère et dans aucune prise en charge. Et il n'y a aucune prise en charge, en fait, adaptée à elles. Donc c'est un peu ça. Il n'y a que les structures d'urgence. Et comme tu viens de le dire, voilà, c'est une nuit et le lendemain, il faut recommencer. Donc il n'y a aucun travail à long terme.
Donc il faudra avoir des centres qui répondent aux besoins des femmes, aux besoins durables, si on peut, si je peux me permettre à dire ainsi. Donc on peut rêver, j'espère bien qu'un jour... D'ailleurs, il y a Estelle aussi qui travaille et qui a fait aussi son travail sur un projet qui s'appelle Chez Elle. Peut-être que tu peux en parler de ce centre, Estelle.
Oui, bien justement, ce centre viendrait...
Pour casser...
Oui, c'est tout ou rien. Nous, on aimerait bien trouver un juste milieu et pouvoir aider ces femmes. Mais c'est une idée qui a émergé de RIM, et moi je l'ai suivie dans le mouvement. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et on s'est dit, on va mettre un centre en place, mais un centre donc ouvert simplement aux femmes, juste ciblé sur les femmes. Où on va leur proposer des sanitaires, de la nourriture, et tout ça au prix le plus bas ou gratuit. Ça, ce serait l'idéal. Et peut-être dans le futur, un hébergement aussi, parce que c'est bien d'accueillir les femmes la journée, mais les remettre à la rue le soir, c'est pas non plus la meilleure des choses. Et donc, voilà, on a essayé. Tentative qui a quelque peu échoué, mais on a su se faire connaître un petit peu et rassembler d'autres personnes autour de la même cause. Mais ce n'est pas fini, on va continuer et on espère que ça verra le jour.
Estelle, tu vas pouvoir nous en développer encore un peu plus. Cette idée-là, c'est le centre d'accueil qui s'appelle Chez Elle. Et ça vient justement de chez nous où travaille RIM. Est-ce que on peut... Il y a une pause musicale? Peut-être qu'on peut en revenir après la pause musicale.
Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe, il y a des foyers d'accueil, parce que en hiver, en France aussi, il fait froid.
Nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin.
Les pauvres. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Et ils vivent très bien. 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 Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres.
Cette femme qui nous ment, je l'ai vue dans ses yeux.
Depuis 2 ans, la pauvreté ne recule plus. Le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 788 euros par mois. Elles sont près de 7 millions en France.
Un SDF, handicapé, a été condamné à 2 mois de prison ferme. Depuis des années, il prenait les transports en commun à Lyon sans payer.
Ce que par-dessus tout, nos aveugles déplorent, c'est pas les torts d'état de se rincer l'œil creux, non, mais de ne plus pouvoir lorgner le drapeau tricolore. La ligne bleue des Vosges sera toujours notre horizon. Chez nous, ce qu'il est même mal à l'aise, c'est pas d'être hors d'état de compte les fleurettes, grenons de nom, mais de
Vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 FM, donc dans l'émission, ils en parlent encore de vie féminine. Nous continuons toujours avec les actions et les revendications. Donc parmi les actions, il y a les occupations des bâtiments vides à Bruxelles. Et puis aussi, donc je passe la parole à Rim qui travaille chez nous pour nous parler de ces actions.
D'occupation, oui. Donc, ce qu'il y a, le problème, il est simple. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des causes, le sans-abrisme, il a des causes structurelles et des causes individuelles. D'accord, les causes individuelles, avec un accompagnement social, avec la réinsertion, comme but, c'est faisable. Mais les causes structurelles, on sait rien faire. Donc, s'il y a une crise de logement, il y a une crise de logement. Donc là, il faut agir. Et la solution qu'on a trouvée pour le moment, c'est occuper. C'est une équation toute simple. Il y a des gens à la rue, il y a des bâtiments vides. Donc, on aide ces gens à rentrer dans ces bâtiments.
Comme quels bâtiments?
C'est tout simple.
Comme lesquels?
Comme les bâtiments qui appartiennent à l'État, aux autorités, au CPS, qui a pour mission, justement, de reloger les personnes, mais qui ne le fait pas. Donc, le citoyen prend sa vie en main et occupe ces bâtiments qui lui appartiennent. Ça appartient aux contribuables.
Tu veux ajouter quelque chose sur l'occupation de ce bâtiment, Estelle, du CPAS de Bruxelles?
Oui, donc le chez elle. Donc nous, on s'est inscrit d'une part pour aider les femmes sans abri, mais aussi pour montrer ce problème de logement. Et le bâtiment où on était un bâtiment qui avait été inhabité pendant près de 10 ans, je pense. Il appartenait au CPAS, oui, au moins 8 ans. Puis quelqu'un d'autre a essayé de le reprendre. Ça n'a pas marché non plus, l'espèce l'a mis dehors, bien qu'il ait un projet assez solide. Et nous, on s'est dit, comme on rentre dans les mêmes lignes que le CPAS, donc comment éradiquer la pauvreté? on s'est dit, ça peut marcher, mais non. Donc on voit qu'on rencontre des limites, des obstacles quand on veut s'entretenir avec les pouvoirs publics, quand on veut montrer, faire émerger ce problème au grand public, quoi.
Et c'est dans ce bâtiment que ça va se réaliser, le projet?
Non, on est déjà, donc l'historique un petit peu, pour faire le résumé, c'est donc on a occupé un bâtiment qui appartient au CPS, qui se trouve à rue de Flandre numéro 100, donc en plein centre, qui était parfaitement adapté, que ça soit géographiquement ou la structure du bâtiment, donc pour un centre d'accueil de jour. Et donc l'occupation n'a pas duré très très longtemps. En pleine négociation avec le CPS de Mille Bruxelles, on croyait justement que nos buts se convergeaient en quelque sorte, vraiment. Donc c'est la même mission, c'est les mêmes objectifs. Ben, on a été expulsés de ce bâtiment.
Et ça, le bâtiment sera... exclusivement pour les femmes?
Non, il n'est plus. Il a été exclusivement pour les femmes. Donc, et justement, pour revenir juste un petit peu sur les raisons pour lesquelles on a décidé d'occuper et d'ouvrir un centre d'accueil, bien sûr, il y a d'un côté répondre à des besoins vitaux ou des besoins élémentaires, mais il n'y a pas que ça comme but. Le but, c'est de faire un accompagnement social et aussi de travailler avec ces femmes. Je crois qu'il est temps qu'on arrête de faire pour elles sans les consulter. Donc la preuve, justement, la question moi que je me suis posée justement dans ce mémoire, c'était pourquoi on les retrouve, pourquoi est-ce que je trouve des femmes depuis 20 ans dans le même parcours institutionnel, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on leur a jamais demandé qu'est-ce qu'elles veulent vraiment.
Justement, Fabiana, je pense, il semble que vous avez aussi participé dans ce projet, le projet de chez elles. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter et aussi nous dire qu'est-ce que vous demandez à nos hommes et femmes politiques?
Je trouve dommage que ce projet, justement, n'a pas tenu que quelques jours, parce que le fait d'occuper un bâtiment vide, il y en a tellement, des bâtiments vides, donc, moi, je suis pour l'occupation. Comme ça, au moins, il y aurait des endroits où les personnes sans-abri pourraient aller, et s'il y a des structures qui sont réservées aux femmes, tant mieux. Et il faut qu'un projet comme le chez elles renaissent et vivent.
Et vivent, donc, ça c'est le rêve de Fabiana. Et puis alors,
petite chose peut-être avant de clôturer l'émission. Donc, comme nous avons été exclus de ce bâtiment, nous sommes toujours à la recherche d'un autre bâtiment. Et par le plus grand des hasards, si l'un de vous avait entendu parler d'un endroit disponible pour nous accueillir, eh bien, faites-nous signe, appelez Radio Panique ou Vie Féminine.
Et Rime, donc, au niveau des revendications, qu'est-ce qu'ont des revendications en place ?
Les revendications ? C'est d'avoir un bâtiment, donc un endroit où les femmes puissent se retrouver, puissent se reposer, puissent se poser, puissent un peu se sentir en sécurité et retrouver un petit peu des traces du quotidien, un quotidien humain et digne, enfin en tout cas conforme à la dignité humaine, et leur donner un petit peu, donc leur rendre un petit peu de leur féminité et de leur humanité pour pouvoir mettre en place quelque chose à long terme. Donc pour le moment, on n'a pas envie de faire pour elles, on a vraiment envie de faire avec elles, mais pour faire avec elles, il faut les sortir de ce système de survie, et puis après qu'on pense ensemble à qu'est-ce qui est adapté à elles. Donc est-ce qu'elles envisagent un habitat solidaire, une maison d'accueil, des appartements, enfin, donc c'est qu'on arrête de dire voilà ce qui est bon et on les met là. Non, c'est elles qui doivent nous dire ce qu'elles veulent. Et pour qu'elles puissent nous dire ce qu'elles veulent, elles doivent se reposer.
Donc, justement, je vois, c'est un projet où donc il faut justement impliquer les bénéficiaires. Mais est-ce que, comment est-ce que le travail se fait ? Est-ce que c'est, ça rentre dans leur tête pour pouvoir se dire, avec justement le système qui existe déjà maintenant, actuellement, de centres d'accueil, maintenant que vous voulez renverser justement ce système, de se dire, maintenant, ce sont les sans-abri elles-mêmes qui vont pouvoir faire les revendications, vont pouvoir arriver à changer donc des choses, à être des acteurs et des actrices. Mmh. Mais alors, comment est-ce que c'est faisable
de la rue à devenir acteur vraiment, ce n'est pas possible. Donc il faut une transition, et la transition c'est justement au moins, donc c'est ce que j'ai dit, donc rendre un peu de dignité humaine à ces personnes et leur donner la parole. C'est très important de les écouter, en fait. C'est la parole.
Fabiana, qu'est-ce que vous voulez envie de dire à ces personnes là qui ont envie de vivre dans la rue en attendant le projet, ou en connaissant le projet qui est en train de se mettre ensemble, justement, tout le monde ici, vous êtes impliqué là-dedans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes et hommes qui sont dans la rue, qui vivent dans l'errance, pour pouvoir les impliquer dans le projet, et même d'autres, les citoyens et tout le monde, de pouvoir aider ces personnes-là à sortir, à pouvoir s'approprier de ce projet? Quel message donneriez-vous ?
Difficile. Gardons espoir et entraidons-nous.
Oui, Fabiana ?
Mais il n'y a pas vraiment de message à faire passer, en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Quand une personne est vraiment dans un mode de survie, et qui, quand elle se lève le matin, elle est en train de réfléchir à où est-ce qu'elle va manger, où est-ce qu'elle va dormir, lui demander de faire des revendications politiques et à long terme, c'est trop demandé. Donc c'est clair que on se fait pas d'illusions. Et donc il y a un minimum de, je crois que le droit au logement est dans la Constitution, et chaque personne a droit à un logement, a droit à un toit. Donc ça, c'est un droit que normalement les acteurs sociaux doivent œuvrer pour satisfaire en fait ce besoin. Et puis le reste, maintenant, à long terme, donc des solutions adaptées, il faut les avoir avec les personnes concernées. Mais dans un premier temps, on est obligé de créer d'abord une structure, et puis quand la personne, elle vient et elle se pose, elle se repose, là on pourrait aller plus loin. Mais sinon, je crois que c'est clair qu'on doit travailler ensemble, mais je vois pas très bien ce que tu veux dire par quel message on pourrait lancer. Le message qu'on pourrait lancer, c'est le message aux autorités plutôt, en fait. Donc c'est plus le message aux citoyens, aux autorités.
Merci beaucoup. Avant de clôturer, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez bien apporter ?
Un dernier mot. Merci pour les Pour tout le monde.
Un dernier mot à Fabiana, qui est ici pour la première fois aussi. Donc, nous vous demandons, donc, je vous souhaite, quant à moi, un très bon week-end. Et je remercie tout le monde, les invités ici qui étaient présentes et aussi à vous, chers auditeurs. Auditrice et aussi à Tamara dans la cabine technique. Et si donc le sujet vous interpelle, vous pouvez toujours contacter Vie Féminine à Bruxelles. Et nous vous attendons à la prochaine émission du 27 février, donc à la même heure. Donc je vous dis bien bon week-end.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre.